Chapitre 7. Tante Cornélie avait consenti. Chaque soir, de 7h à 9h, Siméon s'asseyait à un petit pupitre que Mademoiselle Augustine avait installé pour lui dans l'arrière-magasin, et là, entouré de toutes les pièces à l'appui, il faisait son possible pour établir et répartir le total des ventes de la journée. Mademoiselle Augustine avait un carnet qui lui servait de mémorandum. Elle l'appelait mon procès-verbal. Personne n'a jamais su pourquoi, sinon que le mot semblait joli et qu'elle n'y attachait aucun sens quelconque. « Un nom ne coûte pas plus cher qu'un autre, » disait-elle. Elle inscrivait là-dedans les ventes à crédit, les commandes reçues, l'adresse de ses fournisseurs, la date de sa prochaine lessive, des recettes de cuisine qu'elle échangeait avec ses clientes, le temps qu'il avait fait le jour de la Saint-Médard, un méli-mélo étonnant, entremêlé de signes cabalistiques, de points et de croix qui mettaient la pénétration du comptable à l'épreuve. Car Mademoiselle Augustine appelait Siméon mon comptable et il fallait voir de quel air elle disait à ses pratiques « Mon comptable vous fera cette facture. Mon comptable écrira ce soir même à la maison qui me fournit cet article. » Elle avait la bouche pleine de ce comptable qui donnait, pensait-elle, un lustre et un relief tout nouveau à son commerce. La concurrence n'avait pas de comptable, la concurrence faisait elle-même ses additions. « Voyez-vous, disait Mademoiselle Augustine, quand on est dans les denrées coloniales, il est impossible de suffire à tout. J'ai essayé, mais j'y perdais la santé. Depuis que je me suis décidée à prendre un comptable, je me porte mieux. Je m'occupe de la vente et tout ce qui me traverse l'esprit, je l'inscris dans mon procès-verbal pour me décharger la mémoire. » C'est ensuite à mon comptable à se débrouiller. Heureusement pour lui, il est débrouillard, ce jeune homme. Heureusement pour lui, en effet, car il avait souvent à débrouiller de singuliers hiéroglyphes. Mademoiselle Augustine, toujours afin de décharger sa mémoire, avait coutume de faire des nœuds à son mouchoir ou à son tablier et d'oublier instantanément pourquoi elle les avait faits. Quelquefois, elle mettait dans le nœud un petit bout de papier qui, froissé pendant 2 ou 3 jours au fond de sa poche, devenait illisible. Un soir, elle apporta à son comptable un de ses documents et le posa devant lui, après avoir soigneusement lissé le papier avec la paume de la main. « Qu'est-ce que j'ai bien pu écrire là ? » demandait-elle d'un ton perplexe. « C'était une chose très importante. J'avais l'intention de la porter au procès-verbal, mais cela m'est sorti de l'esprit. » Il est impossible d'admettre les nœuds de mouchoir comme un genre de comptabilité, dit Siméon. Cependant, il examina sous toutes ses faces, à la clarté de la lampe, le graphisme de sa patronne et ne put y découvrir que le mot Julien, suivi de 3 signes qui ressemblaient à des zéros. L'interprétation des écritures symboliques devrait se payer à part positivement, fit-il, pour voir ce que Mademoiselle Augustine dirait. « Miséricorde, gémit-elle, 2 francs par semaine, c'est assez cher pourtant. Voyons, Julien, 3 zéros. » « L'un des zéros est peut-être un C et le second un O, » dit Siméon reprenant son examen. « C, est-ce une initiale? Cela peut signifier café, cannelle, cacao, calicot. » Mademoiselle Augustine secouait la tête. « J'ai idée que ce n'est pas ça, » dit-elle. « Et moi, je n'ai aucune idée de ce que cela peut être, » fit Siméon impatienté. « Julien ? Quel Julien ? J'en connais 4 ou 5 dans le village. »« Oh, ma mémoire, ma mémoire !» soupirait Mademoiselle Augustine, accoudée sur le pupitre, la tête entre les mains. La petite sonnette de la boutique, annonçant l'entrée d'un acheteur, vint interrompre la conférence. Par la porte restée entr'ouverte, Siméon entendit une voix forte, un peu sèche, qui demandait « Et ces Focolles, sont-ils arrivés ?»« Quels Focolles, monsieur Julien ?»« Et les 3 boîtes de Focolles que j'ai commandées il y a 10 jours. Vous n'aviez plus mon numéro en magasin et vous m'aviez promis de le faire venir. Gageons que vous l'avez oublié, vous n'en faites pas d'autre. » poursuivit le client d'un ton fâché après un silence. « Il est vrai, monsieur Julien, mais mon comptable va écrire tout de suite. »« Laissez-moi tranquille avec votre comptable. Je pars demain, je vous l'avais dit. J'achèterai des Focolles en voyage. » Et la petite sonnette carillonna la brusque sortie de monsieur Julien, qui ferma la porte derrière lui un peu plus bruyamment que de raison. Mademoiselle Augustine rentra fort abattue dans l'arrière-magasin. « C'était lui que j'avais dans le nœud de mon mouchoir, » dit-elle. « Les trois zéros ne sont pas des zéros, ce sont des ronds pour représenter des boîtes de faux cols. J'avais 5 ou 6 personnes à servir en ce moment-là, j'ai cru que cette petite note me suffirait. » Elle se laissait tomber sur une chaise en face de son comptable, qui la regardait d'un air non moins accablé. Ferdine avait de son côté ses petites épreuves. Les chaussettes lui donnaient beaucoup de mal. « Que de mailles il faut faire pour gagner 1 franc » pensait-elle. « Je suis sûre que dans une seule chaussette, il y a au moins 10 000 mailles. 10 000 ! Imagine-t-on cela ?» Aussi les allongeait-elle, ses mailles, autant qu'elle pouvait, ce qui donnait à son tricot, disait Mademoiselle Caton, l'air d'un filet à pêcher, et encore, ajoutait-elle, les poissons pas trop gros passeraient à travers. Ferdine, en contemplant son œuvre, s'avouait tout bas que son pauvre père allait être bien mal chaussé. Un jour, dans un accès d'héroïsme, elle tira les aiguilles et défit une douzaine de tours, puis elle s'arrêta, songeant qu'il faudrait refaire tout cela, et elle fondit en larmes. C'était sur Siméon qu'elle pleurait, plus que sur ses propres tribulations. Elle souhaitait tant de lui aider, elle aurait été si fière d'avoir une part, une grosse part, dans la réussite de ses projets. Mais à quoi avait-elle été bonne jusqu'ici? Elle lui avait donné un fâcheux conseil qui n'avait abouti qu'à la plus complète déception. Elle essayait de travailler et ses doigts semblaient incapables de mener à bonne fin une petite besogne fort ordinaire. La première paire de chaussettes demanda 3 semaines de labeur, et quel labeur! Toutes les heures de loisir y avaient passé. Le petit pavillon du jardin ne voyait plus Ferdine sans son panier à peloton. Siméon la suppliait en vain de s'accorder un peu de repos. Elle tricotait en lui faisant réciter ses colonnes de mots latins. Elle tricotait en se promenant dans les allées, en racontant des histoires à Ernest. Elle aurait tricoté en prenant ses repas si son père l'avait permis. La nuit, elle rêvait qu'elle tricotait. Cependant, ses moments de loisir, mis bout à bout, ne lui donnaient point une somme de temps suffisante. Elle essaya de l'augmenter en travaillant le soir dans sa chambre à la clarté d'une bougie qu'elle acheta exprès pour cela. Car Mademoiselle Caton, une demi-heure après avoir envoyé Ferdine se coucher, montait elle-même afin de s'assurer que tout était en ordre et emportait la lumière. Aussitôt que les pas de la bonne cessaient de se faire entendre, Ferdine s'asseyait dans son lit et allumait la bougie. Son tricot était sous l'oreiller, elle le tirait de sa cachette, l'examinait, se donnait une tâche après avoir jeté un coup d'œil à la pendule. Tout était tranquille dans la maison. Ferdine, qui avait un coin romanesque dans sa cervelle imaginative, aimait cette heure silencieuse, la demi-obscurité qui prêtait à son petit domaine des aspects nouveaux, les contours bizarres des ombres tremblant sur la muraille, la grande caverne noire qui se creusait sous la table. Elle se racontait alors des histoires à faire trembler. Quelqu'un était là, caché derrière les grands rideaux de la fenêtre. C'était un fugitif, un prisonnier échappé de son cachot. Les hommes qui le traquaient environnaient la maison. Au petit jour, ils venaient s'emparer de lui, mais Ferdine défendait avec intrépidité le seuil de sa chambre. Elle parlait comme une héroïne de Walter Scott. Elle disait « Je ne suis qu'une femme, frappez-moi si vous l'osez !» Parfois, l'histoire devenait nébuleuse et se poursuivait dans un rêve. Le tricotage tombait alors sur la couverture, la tête de Ferdine s'inclinait en arrière, dans la profondeur de l'oreiller, et la bougie brûlait, brûlait vite, avec des crépitements qui ressemblaient à d'ironiques petits éclats de rire. Quand Ferdine se réveillait en sursaut, elle promenait autour d'elle un regard effaré. Où était le fugitif? Où étaient ses persécuteurs qu'elle venait de voir avec leurs grands manteaux et leurs sabres? Puis elle découvrait qu'elle avait rêvé, que son peloton était tombé à terre, entraînant la chaussette et les aiguilles, et que celle-ci avait glissé hors des mailles trop lâches. La bougie était diminuée d'un tiers au moins, bref, c'était un désastre. Il se renouvela 4 ou 5 soirs de suite, avec des variantes. Comme on le croit sans peine, les chaussettes avançaient fort peu, l'éclairage revenait très cher, bref, le jeu n'en valait pas la chandelle. Enfin, quand au sortir d'un de ces gentils petits sommes, Ferdine trouva le coin de son oreiller si voisin de la flamme que le moindre vacillement aurait déterminé un incendie, elle fut si épouvantée de son imprudence que, dès lors, quoiqu'à regret, elle renonça aux séances nocturnes de tricot. Ferdine possédait un calepin que Siméon lui avait donné autrefois pour sa fête. Il était en cuir rouge, entouré d'une étroite bordure de métal blanc à laquelle tenait un petit fermoir. Elle inscrivait toutes sortes de choses dans ce calepin et elle ne manqua pas d'y noter toutes les phases de la confection des chaussettes. Première paire, achevée fin juin. Seconde et troisième paire, en juillet. Quatrième et cinquième, en août. Sixième paire, tricotée entièrement en 9 jours, achevée le 9 septembre. Reçue de papa, 6 francs. 6 francs pour plus de 3 mois de travail, c'était un résultat humiliant. En son fort intérieur, Ferdine avait presque espéré que son père lui dirait « Ma chère enfant, je sais que ces chaussettes t'ont coûté beaucoup de peine, aussi je doublerai le prix convenu. » Mais il n'en fit rien, il lui remit tout juste la somme fixée et elle en eut un instant les yeux pleins de larmes. Son père le vit fort bien, il en fut ému car il devinait la pensée de sa fillette. Mais comme il ignorait l'emploi auquel elle destinait cet argent, il craignit, en lui en donnant davantage, de lui faciliter l'exécution de quelque grosse sottise. « Non que je la soupçonne d'un projet blâmable, pensait le docteur. C'est quelque petit complot avec Siméon et j'ai une confiance parfaite dans la droiture de ce garçon comme dans celle de Frédégonde. S'ils préfèrent acheter leur expérience par des tracas et des bévues, qu'à moi ne tiennent, des conseils imposés ne leur profiteraient pas. »